Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Bonjour et bienvenue dans Milkshaker, le podcast qui agite les idées reçues sur l'allaitement. Je suis Charlotte Bergerot-Palisco, je suis la maman d'un petit garçon de 2 ans que j'ai allaité durant 1 an et je suis la créatrice de ce podcast. Dans la vie, je suis ostéopathe spécialisée en périnatalité. Je m'occupe des femmes en général, de leur désir de grossesse à leur postpartum, des bébés et des enfants. J'accompagne spécifiquement certaines problématiques d'allaitement en libérant les bébés des tensions qui les empêchent de téter correctement, permettant un allaitement serein pour la mère et l'enfant. Au fil des consultations, je me suis rendu compte que le principal frein à l'allaitement, c'était le manque d'informations, de partage d'expériences et de vécu dans une société où l'allaitement n'est pas une norme. Je vous propose donc d'interroger avec moi des mamans et des papas sur leurs expériences, mais aussi de vous informer auprès de professionnels spécialisés en allaitement. Mon objectif est simple, vous informer, vous donner les clés pour faire des choix en conscience, banaliser l'allaitement sous toutes ses formes, vous le rendre plus accessible, plus facile et alimenter ce fameux village dont on a tant besoin pour élever un enfant. On enchaîne aujourd'hui sur les frénotomies, c'est-à-dire les sections de frein de langue. Un professionnel a suspecté chez votre bébé ou bambin un frein de langue et ou de lèvres restrictif, alors que faire ? Noëlla Rajanson est chirurgien-dentiste. Elle s'est spécialisée dans la prise en charge de ces freins restrictifs buccaux. Elle va donc nous parler aujourd'hui des différentes étapes. Quand couper ? Qui coupe ? Comment on coupe ? Est-ce que ça fait mal ? Y a-t-il des risques ? Et après, on fait quoi ? Et avant, on fait quoi ? Comment je peux être sûre que c'est utile pour mon bébé ? Bref, c'est 10 000 questions qui viennent vous saisir en tant que parent et qui sont bien légitimes alors qu'on parle de sectionner quelque chose dans la bouche de votre chouchou. On a la chance aujourd'hui que quelqu'un dont c'est le métier réponde à toutes ces interrogations. Peut-être que cela en suscitera d'autres, et si c'est le cas, on y reviendra, car on sait que le sujet est délicat. En attendant, tout ceci est fait pour vous rassurer. À écouter la douce voix de Noëlla, vous comprendrez très vite qu'elle ne veut aucun mal à votre merveille. Cet épisode est la suite logique de l'épisode 19 avec Émilie Chevalier. Si les freins de langue ont le moindre secret pour vous, je vous conseille vivement d'écouter l'épisode précédent avant celui-ci. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Noëlla, bienvenue dans Milkshaker.
Bonjour.
Alors Noëlla, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît ?
Oui, je suis chirurgien-dentiste en Gironde, à Villandreau, c'est une petite ville de Gironde. Je suis maman d'une petite fille de 2 ans et à présent, je ne m'occupe quasi exclusivement que des soucis de fonction de la langue en lien avec les freins restrictifs buccaux. Donc je me suis spécialisée dans les frénotomies, pour l'instant que des bébés et bientôt pour les enfants et les adultes quand il y aura un peu plus de place. Voilà.
D'accord, parce que tu es déjà débordée. Ok, donc Noëlla, vous l'aurez compris, sectionne les freins de langue de votre bébé quand ils sont restrictifs. Cet épisode va faire le lien avec un épisode précédent que vous avez donc probablement déjà écouté sur les freins, qu'est-ce que c'est, pourquoi on en a, comment les détecter, etc. Noëlla aujourd'hui va nous parler de mon bébé a un frein de langue et maintenant qu'est-ce qu'on en fait si jamais on a décidé d'aller le faire sectionner et donc de le prendre en charge. Et donc ma première question, Noëlla, ça va être ça. Mon IBCLC, par exemple, ma consultante en lactation, m'a dit « Tiens, je pense que votre bébé a un frein de langue restrictif, et ou de lèvres, et ou de joues. Qu'est-ce que je dois faire ? Vers qui je dois me tourner ?»
Donc, si l'IBSLC a dit qu'il y avait un souci de frein, c'est sûrement parce qu'au niveau fonctionnel, les muscles de la bouche, de la langue, des joues, des lèvres, on a du mal à travailler efficacement et d'avoir une succion optimale. Donc, la première chose qu'on peut faire, c'est voir un thérapeute manuel qui est formé au frein, comme un chiropracteur, ostéopathe. On peut même aussi voir des kinésithérapeutes qui vont nous permettre de travailler tout ce qui est autour du frein, de donner des exercices peut-être pour préparer son bébé, puisque si au niveau fonctionnel, ça ne marche pas, on va essayer de travailler tout ce qui est autour pour le préparer en vue de la frénotomie. Et prendre son rendez-vous également chez la personne qui peut couper, parce que parfois il y a des délais qui sont assez longs. Donc même si on n'est pas sûr qu'on veut couper, qu'on a besoin de temps de réflexion, on peut très bien prendre son rendez-vous et l'annuler ensuite si nécessaire, s'il y a beaucoup de semaines d'attente.
D'accord, ok, donc c'est un accompagnement aussi en attendant de pouvoir faire la fréno.
Voilà.
On parle parfois de consulter des orthophonistes, par exemple, en thérapeute autour des frénotomies. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ?
Oui, tout à fait, les orthophonistes, parce que s'il y a un problème de fonction de la langue, et c'est eux qui travaillent tout ce qui est rééducation oro-myo-fonctionnelle, on dit, donc tout ce qui va être rééducation de la fonction des muscles de la bouche, et du coup, ils vont nous accompagner sur comment aider son enfant à mieux utiliser ces muscles-là, puisque en fait, faut imaginer qu'avoir un frein de langue, c'est comme si on avait un plâtre au bras. On est un peu bloqué dans ses mouvements, donc on fait un peu différemment. On fait comme on peut, on va dire. Et c'est pas parce que quelqu'un va arriver pour couper le frein, on a enlevé le plâtre en fait. Et c'est pas parce qu'on nous a enlevé le plâtre qu'on va tout de suite lever le bras, porter des charges lourdes et faire tout comme il faut. Pas du tout. C'est pas parce qu'on a corrigé l'anatomie qu'on corrige forcément la fonction. Et donc l'orthophoniste est là pour nous aider à rééduquer les muscles, la fonction de faire en vue de couper les freins, ou parfois même sans frein, ils vont nous aider pour rééduquer la langue et toutes les fonctions autour de ça. Donc, y a plusieurs spécialistes qui peuvent nous aider, l'orthophoniste et puis également les thérapeutes manuels pour travailler tout ce qui est tension, qui peuvent aussi donner toutes les tensions musculo-squelettiques, les tensions de la naissance, les tensions qu'il y avait à cause de la position in utero, de l'accouchement. Tout ça, ça peut donner aussi des symptômes similaires aux freins restrictifs qui gênent dans la mobilité des muscles.
Ouais, et si vous cumulez les deux, alors là, vous avez encore plus de chance que tout ensemble fonctionne bien.
C'est ça, tout à fait.
Ok, alors, qu'est-ce que c'est qu'une frénotomie ? Alors déjà, on entend le mot frénotomie, on entend le mot frénectomie. Est-ce que tu peux nous refaire un petit point lexique ?
Oui, alors, on utilise plusieurs mots, mais en fait, en réalité, pour le début, il n'y a pas trop de différence. En fait, frénotomie, ça serait pour sectionner le frein, donc toutes les insertions ne sont pas enlevées, donc on coupe le frein et il va se reformer sur une longueur différente. La frénectomie, c'est toute l'élimination du frein. La frénuloplastie, c'est quand on va mettre des sutures. Donc en fait, tous ces termes, ça change pas grand chose. Le but, c'est en fait d'aller modifier ce frein, donc en le coupant, pour qu'il soit plus problématique.
Ouais, l'idée, c'est de libérer la langue de cette contrainte anatomique.
Voilà, tout à fait.
Peu importe le mot qu'on pose dessus.
C'est ça.
Ok.
Après, dans le type de frénotomie, on n'a pas tous la même définition des frénotomies. En fait, souvent, quand on dit « bon, on va couper le frein », on pense souvent aux freins qui sont coupés à la maternité. On va couper, quick, c'est fait en 2 secondes, c'est fini. Tout est rétabli. Et du coup, à la maternité, on coupe plutôt la partie qui est la partie du devant du frein, c'est-à-dire la partie qui dépasse, la petite membrane que l'on voit, qui est souvent accrochée vraiment à la pointe de la langue ou tout proche. Donc, c'est souvent les freins qu'on appelle antérieurs.
Ces freins qui sont plus faciles à voir, globalement, ceux-là.
Ceux-là, on les voit souvent.
Tout le monde les voit.
Et du coup, à la maternité, ils vont couper cette partie, donc il n'y a pas forcément de plaie. Et on différencie les autres frénotomies, comme moi je réalise ou d'autres praticiens réalisent, qui sont plus profondes. Et donc là, il y a une plaie, donc on va couper la partie du devant s'il y en a une, mais parfois il n'y a pas toujours cette partie antérieure visible. Mais on va couper la partie un peu plus loin. Donc là, en fait, on a coupé toute la restriction. Il y a une étude assez récente qui date de quelques années qui avait montré que la restriction, en fait, elle pouvait être beaucoup plus loin que juste la partie de devant. Ça pouvait être la muqueuse, le rose que l'on voit sous la langue, la couche de fascia, c'est-à-dire ce qui enveloppe le muscle juste en dessous, donc sous cette couche donc, qui n'est pas visible de l'extérieur. Et parfois même pour les plus grands, ben, une partie du muscle qui est trop court aussi, qui est restreint puisqu'il s'est développé comme ça.
Oui, parce qu'il s'est développé autour de la restriction en fait. Donc lui-même est comme un muscle qui n'a pas été utilisé, un peu trop serré.
C'est ça. Donc en fait, on n'a pas tous cette même définition. Il y en a donc qui vont couper que juste cette partie visible de devant de la muqueuse, donc c'est-à-dire une partie de la muqueuse, et d'autres qui vont couper toute la restriction, c'est-à-dire toute la muqueuse, voire muqueuse plus fascia, voire certains muqueuse fascia et une partie de muscle. Cette phrénotomie qu'on dit complète, souvent entre partielle et complète, elle engendre une plaie. Et s'il y a une plaie, et bien il faut que la cicatrisation soit optimale. Et donc, ça nécessite vraiment une rééducation sur le moment, puisque là, il y a une possibilité de rattachement, qu'anatomiquement, ça revienne, contrairement à la phrénotomie faite à la maternité, puisque s'il n'y a pas de plaie, le bébé il peut se rééduquer, bouger sa langue en 3 ans, comme en 2 jours, peu importe l'incidence, mais quand il y a une plaie, il faut vraiment qu'on ait des résultats assez rapides pendant la cicatrisation. Donc on fait toute cette préparation autour pour que le bébé bouge au maximum. Ben, le bras qu'on a libéré du plâtre, comme je disais, hein, il faut qu'il bouge au maximum pour que ça cicatrise comme ça.
D'accord. Et à la maternité, on ne trouvera jamais un praticien qui sectionne des freins sur toute leur longueur ? Sur toute leur restrictivité
C'est peut-être possible, puisque nous en Gironde, on a le docteur Brinté aussi qui est en maternité et qui connaît quand même beaucoup mieux maintenant la problématique des freins. Mais bon, les bébés ne sont pas forcément prêts aussi, donc ils peuvent avoir toutes les tensions de leur accouchement et faire que même si on a coupé entièrement, ils ont peut-être une partie qui se rattache. Mais en tout cas, c'est assez rare. Je pense qu'il y ait une grande plaie dans la bouche à J2 de...
Ouais, d'accord. Et alors, est-ce que c'est utile, du coup, de quelle est l'utilité de sectionner ce frein sur sa partie antérieure sans faire l'entièreté de la restrictivité? Ça va apporter quelque chose au bébé quand même?
Ben oui, ça peut déjà apporter, parce que s'il a vraiment cette partie antérieure qui est bloquée, normalement, pour la succion, le bébé doit pouvoir faire un mouvement de vague. Donc la langue, elle fait une vague en bougeant, en élevant la partie du devant, la partie moyenne. Et du coup, s'il a toute cette partie antérieure qui est bloquée, déjà la vague, elle est très limitée, même pour la partie du devant. Donc la succion, il peut déjà y avoir des soucis de succion. Donc ça va, même en coupant que cette partie, on libère déjà de la mobilité. Et du coup, ça peut déjà maintenir un allaitement, permettre à la maman de s'en sortir un peu mieux. Parfois, tous les symptômes disparaissent entièrement, même si l'autre partie n'est pas coupée. Et même si ça s'en va que partiellement, au moins, le bébé pourra déjà remuscler ce qui a été libéré en vue d'une phrénotomie complète s'il le faut plus tard. Donc déjà, ça peut déjà apporter beaucoup, parce que essayer de rééduquer un muscle qui est bloqué vraiment du devant jusqu'au fond,
c'est déjà ça lui permet de se remuscler au moins en partie.
Comment ?
Ça lui permet de se remuscler au moins en partie.
Oui, c'est ça. Voilà. C'est au moins, il peut déjà être mieux préparé. Donc, dans tous les cas, c'est pas perdu, quoi, pour moi.
Ok, super. Et alors, donc, qui coupe ? Puisqu'on parle de sectionner ces freins de langue, on parlera des freins de lèvres aussi en même temps. Qui coupe tous ces freins dans la bouche des bébés ? Donc, des dentistes, des pédodentistes comme toi ?
Oui, il y a des chirurgiens dentistes, donc pédodentistes qui s'occupent exclusivement des enfants aussi. Et les professionnels médicaux, ça va être les ORL, stomato, mes médecins aussi, il peut y avoir des médecins généralistes, des pédiatres. Voilà, tout personnel médical peut couper un frein.
Voilà. Est-ce qu'il y a différentes façons de sectionner un frein de langue ?
Oui, on peut couper au ciseau et on peut couper au laser. On peut couper au scalpel. Enfin, il y a différents outils, il y a du bistouri électrique, il y a différentes manières. Ils ont tous des différences. Le ciseau n'a pas de possibilité de coagulation sur le moment, donc c'est le risque hémorragique. Et en tout cas, il faut le gérer un peu plus facilement, un peu plus difficile.
Oui, il y a potentiellement un risque de saignement à contrôler après.
Voilà, c'est ça. Par rapport au laser, vous vous souvenez, il y a un pouvoir de coagulation déjà. Donc, c'est un petit peu plus... moi, ça me semble plus facile parce que je coupe au laser. Mais en fait...
c'est ta technique.
Oui, mais en fait, le plus important, ce n'est pas vraiment l'outil. Parce que celui qui le fait le maîtrise. Son outil, il le fait en conséquence avec les risques qu'il y a et les avantages. Mais le plus important, c'est surtout jusqu'où c'est coupé. Voilà, c'est ça qui est important, c'est est-ce que la frénotomie est complète ou non. Est-ce que maintenant la langue s'élève sans tension après la frénotomie, peu importe l'outil que j'ai utilisé, c'est, ça qui est, c'est ça qui est important. Et donc ça, on peut le faire avec les deux outils, que ce soit le ciseau ou le laser, mais ce qui est important, c'est le résultat.
Comment ça va se passer ? Donc je décide que, on m'a dit que le frein de langue de mon bébé était potentiellement restrictif. C'est le professionnel qui sectionne, en fait, qui fait le diagnostic final de savoir si ce frein est vraiment restrictif ou pas. C'est ça ?
Oui, c'est ça. Alors normalement, officiellement en France, en tout cas, ce n'est pas le cas dans d'autres pays. Mais en France, ceux qui sont habilités à diagnostiquer un frein, ouais, si on veut jouer sur les mots, c'est les professionnels médicaux et les orthophonistes. Voilà. Mais en réalité, les bébés, ils arrivent très rarement en premier lieu chez l'ORL, chez le dentiste ou chez l'orthophoniste. Ils atterrissent d'abord chez d'autres personnes, chez l'ostéo, chez le chiro, chez la consultante en lactation, voilà, dans les associations d'allaitement aussi. En fait, ils vont atterrir ailleurs parce qu'au début, ben, ils sont tout petits, les parents sont en difficulté et ils cherchent. Et donc, les personnes disponibles d'abord, c'est pas l'ORL qui va leur parler des freins. C'est quelqu'un d'autre. Donc ces personnes-là, ben, si elles sont formées, elles peuvent pas faire le diagnostic réel pour dire j'ai diagnostiqué telle chose, mais en tout cas elles peuvent avoir de forts soupçons et s'y connaître parfois même mieux qu'un professionnel médical. Et du coup, c'est ces personnes-là qui vont parler d'abord des freins. Et du coup, c'est ces personnes qui peuvent donner des exercices à faire déjà, ben, pour préparer le bébé, comme je disais. Mais là, il a son bras bloqué dans le plâtre et il va falloir le préparer en vue de lui libérer son bras. Donc, on va lui apprendre...
Pour que le bras soit prêt à se dégager, en fait, de ce plâtre. Donc, la langue prête à se dégager de ce frein.
Voilà, c'est ça. Et donc, il faut le préparer au niveau moteur. Donc, déjà, voir s'il arrive à faire tous les mouvements, parce que normalement, il est limité dans ses mouvements, mais il peut... réaliser des mouvements. Donc, les gens, on regarde s'il arrive à réaliser tous les types de mouvements, ce qui va faire qu'il va remuscler tous les muscles de la langue dans les différents mouvements de ce qu'il peut, en tout cas. C'est un peu comme avec mon plâtre. Ben, je peux faire des choses. Peut-être que là, je suis bloquée pour lever mon bras, mais en tout cas, je peux quand même me servir un verre, je peux faire des choses. Mais en fait, du coup, ben, comme je suis bloquée, que ça tire, je ne les fais pas. Voilà, il y a une découverte moteur que je ne fais plus. Je fais très schématiquement, bien sûr. Mais c'est un petit peu l'idée.
Mais comme ça, c'est très clair.
Voilà, je suis bloquée, donc il y a même des mouvements que j'évite. Ben là, c'est un peu pareil au niveau moteur. Parfois, ils ont pas ils ne font pas certains mouvements. Il y a des réflexes qu'ils n'ont pas. Le réflexe de sortir la langue, de bouger la langue sur les côtés. Donc déjà, au niveau moteur, on va les réhabituer. On va à faire cette découverte. On va les solliciter pour bouger la langue dans les différents mouvements. On va remuscler. Et puis également, on va travailler sur les tensions musculo-squelettiques qu'il peut y avoir, les tensions crâniennes. Toutes ces tensions qui peuvent les gêner dans la mobilité déjà de ce qu'eux ils peuvent. Donc on va travailler tout ce qui est autour du frein avec un thérapeute manuel. Donc il y a beaucoup de chiropracteurs qui sont formés en France, il y a aussi des ostéopathes, des kinés comme je disais. Et donc eux ils vont travailler tout ce qui est autour, vraiment les muscles, les fascias, les positions, les postures, les tensions crâniennes, tout ça pour permettre de travailler ce qui est autour, pour même si on peut pas étirer un frein, parce que ça c'est pas possible, on peut pas étirer un frein, l'agrandir, sinon on les couperait pas, ça serait facile.
Oui, sinon on les couperait pas.
Le frein ne s'étire pas, mais on peut par contre détendre tout ce qui est autour, détendre les muscles, assouplir les structures autour du frein pour permettre que le jour de la frénotomie, eh bien la langue s'élève beaucoup plus facilement que ça cicatrise de façon plus optimale. Donc on va travailler tout ce qui est autour et déjà rien qu'en voyant parfois un chiropracteur, en faisant des exercices, parfois il y a même des améliorations parce que déjà le bébé fait de meilleurs mouvements, il a une meilleure tonicité, on lui a enlevé des tensions qui le gênaient dans sa mobilité. Enfin toi, si t'es ostéopathe, je pense que tu vois déjà ça au quotidien. Peut-être tu fais ta séance et déjà le bébé t'aide mieux.
Voilà, tout à fait. En fait, le frein génère des tensions et puis on a aussi le droit d'avoir des tensions en plus d'un frein de langue et ou de lèvres. Et donc si déjà on retire une partie des tensions, on améliore la fonction, on peut déjà avoir un bébé qui ouvre mieux la bouche, qui arrive à un peu mieux tirer la langue, etc.
Mais ça n'enlève rien à la restrictivité du frein.
Oui, c'est ça. En fait, on va travailler tout ce qui est autour du frein. Ça veut dire mobiliser, essayer de lui mobiliser la langue, éliminer les tensions, le solliciter au niveau moteur. Et il y a tout le travail de Michel Emmanuel Price qui a réalisé la Tummy Time méthode. C'est la méthode du temps sur le ventre. En fait, c'est pas vraiment juste la méthode de mettre son bébé sur le ventre pour dire bon, il est sur le ventre. En fait, c'est le principe d'interagir avec son bébé, d'être en interaction avec lui, que ce soit au niveau visuel, parole, contact, etc. Et donc, quand on est en interaction avec lui, ben, on va l'aider à exprimer ses compétences au niveau moteur en l'engageant dans des mouvements qui peuvent être plus ou moins faciles pour lui et dont, par exemple, le temps sur le ventre, mais ça peut être aussi du travail d'enroulement, de faire des roulades, de le mettre en position d'extension, la tête un peu vers l'arrière, mais de façon passive. Et du coup, ça l'aide à réguler son système nerveux autonome, c'est-à-dire à savoir mieux s'apaiser quand il est un petit peu challengé sur des choses qui sont un peu difficiles pour lui. Et voilà. Et du coup, tout ce travail-là, ben, on peut le faire, c'est pour les parents chez eux, à faire chez eux. On peut aussi se faire aider d'un kinésithérapeute, bien sûr, pour si c'est un peu difficile pour un bébé de faire certains mouvements. Mais cette Tummy Time méthode, ben, du coup, elle est faite pour vraiment améliorer la relation entre les parents et leur bébé et du coup de l'aider à exprimer ses compétences et de se développer au niveau moteur, au niveau sensoriel, au niveau visuel. Voilà. Et c'est adapté à chaque bébé. Donc, par exemple, un bébé qui est toujours en hyperextension, qui n'y arrive pas du tout à s'enrouler, ben, ce bébé-là, il peut très bien sûrement passer beaucoup de temps sur le ventre. Mais si on laisse tout le temps sur le ventre, ben, ça va être hyper difficile de l'enrouler. Donc, en fait, ça l'aide pas forcément. Donc, on va vraiment adapter si c'est du travail plutôt d'enroulement, si c'est du travail de déroulement. Normalement, chaque bébé doit pouvoir être vraiment mobilisé un peu dans tous les sens, c'est-à-dire s'enrouler, se dérouler. Quand il est sur le ventre, il doit pouvoir faire des mouvements vraiment actifs, tourner la tête ou être un peu tonique, et dans l'autre sens, être aussi relax. Et du coup, le fait qu'on le sollicite au niveau posture, ben, ça l'aide aussi au niveau de sa langue, parce que le bébé, ben, il se développe d'abord dans la posture de sa langue, ensuite le maintien du cou, ensuite le maintien du tronc, et donc au niveau postural, ça va l'aider à se retonifier, à détendre, à se remuscler, et donc ça va l'aider au niveau de sa langue également, et donc pour sa succion, pour au niveau digestif aussi, pour tout ce qui va être reflux, gaz, aérophagie, etc. Et voilà, donc en fait on prépare son bébé au niveau moteur, et bien sûr c'est adapté à chaque âge du bébé, on va pas chercher les mêmes choses et à la même vitesse. On va vraiment s'adapter. Ça va pas être la même chose de préparer un bébé de 6-7 mois et un bébé de 15 jours. Et voilà. Donc ça, c'est la partie un peu moteur. Et on peut l'aider aussi au niveau sensoriel, puisqu'il y a des bébés, au niveau sensoriel, ils ont des hypersensibilités. Il y a des choses qu'on peut pas trop toucher, c'est désagréable pour eux. Donc on va s'assurer, en faisant tous ces jeux, déjà qu'au niveau oralité, il n'y ait pas de souci, qu'on peut lui toucher le visage, ouais, qu'on peut lui toucher dans la bouche, pour le préparer à ce changement qu'il va y avoir, puisque quand même, en coupant le frein, même si c'est très simple comme procédure, ça reste quand même un changement. Il est habitué à compenser, à faire tous ses mouvements d'une certaine manière, et là, on va changer son système de compensation. Donc, au niveau sensoriel, déjà, on peut travailler pour s'assurer déjà qu'il soit prêt à ce qu'on aille l'embêter dans la bouche pendant plusieurs semaines ensuite, pendant la rééducation, et que pour lui il est prêt même au niveau de son système nerveux, à savoir être apaisé, à savoir y accueillir ces changements.
Donc là il faut rencontrer des professionnels, bon, encore une fois, qui sont formés à tout ça pour accompagner justement sur ces exercices, vous les montrer et préparer ce bébé à la frénotomie.
Voilà, tout à fait. Il y a des exercices standards qu'on donne un peu à tout le monde, parce qu'en fait, en réalité, ben, on a un gros souci de professionnels formés. Il n'y en a pas partout, même les orthophonistes, il n'y en a pas partout. Enfin, l'idéal, ça serait d'avoir une personne pour la rééducation, parce qu'il y a des gens, c'est leur métier, comme les orthophonistes, une personne pour les tensions, et une personne pour l'allaitement, et une personne pour l'anatomie, donc pour couper. Voilà, ça c'est l'idéal, mais dans la réalité, eh bien non, on manque, donc tout le monde passe à sa sauce. Par exemple, moi c'est l'anatomie, mais je vais quand même aider pour les exercices, les ostéopathes, les chiro, ben c'est pareil, ils vont donner des exercices un petit peu aidés, la consultante à lactation c'est pareil, parce qu'en fait, ben, tout le monde s'entraide et on essaye de faire une prise en charge globale. Donc s'il manque l'information quelque part, on va aider, mais en tout cas il faut s'entourer des professionnels qui connaissent ça, parce que pour les adultes et les enfants, voilà, ce qui est le plus important pour eux, c'est la rééducation et finalement couper le frein, corriger l'anatomie, c'est que optimiser la rééducation qui a été faite avant. Et donc, il n'y a pas de raison que pour les bébés, ça soit différent. Que pour eux, il n'y a pas de rééducation à faire. Quoi. C'est pareil, corriger l'anatomie, ça ne va pas juste tout...
Oui, surtout que là, on agit sur une anatomie et une fonction. Enfin, un bébé, quand il naît, est câblé pour téter. Donc, c'est quand même un truc qui fait... toute la journée.
C'est
la compétence première du bébé, quoi. Donc, évidemment, c'est celle qu'il a le plus besoin de rééduquer parce que c'est celle qui a le plus de chances d'avoir été entachée par un problème.
Oui, tout à fait. Et puis, il n'y a pas que téter aussi, quoi. Si on veut couper, on va s'occuper de toute la fonction de la langue. Donc, ça va être aussi sa posture au repos, bouche fermée, langue collée au palais, qui va lui assurer plus tard de bien garder une respiration
de bien par le nez,
de bien faire grandir sa mâchoire, son palais, les voies nasales au-dessus, tout ça. Donc, en fait, on va vraiment regarder tout dans son ensemble et de rétablir toute la fonction.
Ouais, voilà, on en parlait dans l'épisode précédent sur les explications sur les freins. C'est, tout ça n'est pas qu'une histoire de succion et d'allaitement, c'est sur les autres répercussions pour à moyen et à long terme que tout ça va avoir son impact. Donc on rééduque pour l'allaitement, parce que c'est souvent ça qui vous amène à faire la frénotomie dans un premier temps, mais on le fait aussi pour plein d'autres compétences que bébé développe et enfant et adulte ensuite.
Tout à fait, oui.
Et alors, combien de temps ça prend, finalement, cette préparation à la frénotomie ? Là, quand on en parle, on a l'impression que c'est quelque chose d'assez fastidieux. Est-ce qu'il y a des bébés qui sont prêts rapidement, d'autres qui sont prêts plus tardivement ? Raconte-nous.
Alors, en fait, c'était très long à expliquer, mais en fait, il n'y a pas vraiment de timing, il n'y a pas de posologie, de prescription à faire sur « il faut absolument faire tant de semaines d'exercice, de séances de chiropraxie ou d'ostéopathie ». C'est vraiment du cas par cas, puisqu'en fait, là, j'ai vraiment checké la liste des choses qu'il faut regarder. Donc, qu'est-ce que ça donne au niveau moteur, qu'est-ce que ça donne au niveau posture, qu'est-ce que ça donne au niveau des tensions, qu'est-ce que ça donne au niveau des réflexes pour la succion, où on en est de l'allaitement. Voilà, on va regarder tout ça et donc on va travailler ce dont t'as besoin le bébé. Donc si par exemple au niveau sensoriel c'est bon, ben c'est bon. Voilà, si au niveau moteur ça va mais qu'il est juste limité dans ses mouvements, ben c'est bon. Donc du coup il y a pas de temps prédéfini. Donc il y a des bébés qui vont être prêts très vite en fait. Ils vont peut-être on va aller checker chez un thérapeute manuel qu'au niveau tension il y en ait pas beaucoup et en fait ben c'est bon. Ou peut-être la première séance déjà ça lui a fait du bien et puis tout le reste est bon et on va aller sur une fréno très très vite. Donc il y a des bébés qui vont avoir des frénotomies à quelques jours de vie, des frénotomies complètes, et d'autres bébés qui vont mettre beaucoup plus de temps, quelques semaines ou quelques jours de plus. Parfois, des grands bébés, ça va être peut-être une question de mois, parce qu'il y a aussi la question de la coopération quand ils grandissent. Voilà. Mais il n'y a vraiment pas de temps prédéfini. De temps prédéfini pour ça. Ça, c'est sûr. Et d'ailleurs, même parfois, les plus petits bébés, ils ont moins de tension que des grands parce que la lactation, peut-être, elle est encore à fond. Donc, ils ont peut-être moins besoin de compenser sur leur succion. Et du coup, parfois, ils ont peut-être moins de tension. Je ne sais pas si toi, tu le vois.
Ouais, c'est ce que j'allais te dire. Moi, je vois ça régulièrement au cabinet. C'est-à-dire que les bébés, dans les premières semaines de vie, peuvent finalement ne pas démontrer énormément de tension. Mais si on a un frein très restrictif là-dessous, moi j'ai toujours un peu peur, entre guillemets, de est-ce que ce frein, si la lactation ne suit pas complètement, est-ce que ce bébé va plus se tendre parce qu'il va compenser la restrictivité de ce frein avec tous ses muscles et sa posture. Et du coup, je me dis toujours, est-ce que ça vaudrait le coup pour ces bébés-là de peut-être un peu moins les préparer et d'aller un peu plus vite sur une frénotomie pour leur éviter finalement de se coincer. Est-ce que ça te parle ?
Oui, moi ça me parle parce que ça m'est déjà arrivé des bébés, des circonstances qui font que je les vois très vite. Ils ont quelques jours de vie et donc il y a un frein anatomiquement qui restreint beaucoup, donc voilà, qui est bien présent et en fait ça va. La maman, ça va. La lactation, ça va. Ça fait 10 jours. La montée de lait, elle est là. Le bébé, il a pas beaucoup de... voilà, il n'a pas beaucoup de travail à fournir sur la succion, le réflexe d'éjection est assez fort pour qu'il y arrive, mais en même temps qu'il ne s'étouffe pas, enfin, ça va bien, quoi. Et du coup, bah, moi, j'informe, bon, bah, voilà, il y a le frein. Et en même temps, bah, la maman, elle ne se sent pas trop. Ben, moi, ça a l'air d'aller, le bébé, ça a l'air d'aller, il n'a pas trop de soucis. Donc, est-ce qu'on va vraiment se lancer dans une frénotomie? Donc, là, je dois l'informer de... Ben, voilà, il y a le frein, voilà ce qui, sur quoi il faut rester alerte, parce que ça reste toujours aussi un danger pour la lactation, parce que du coup, si le bébé stimule moins bien et que la lactation après s'adapte à la stimulation du bébé, bien, elle peut en pâtir. Mm-hmm. Et donc, je me souviens d'une maman comme ça, bah, ça allait très bien à quelques jours, et puis finalement, bah, elle était restée... bon, je la connaissais très bien, donc on est resté en contact, et puis finalement, on a fait la fréno à 2 mois, et à 2 mois mm-hmm. et demi, et en fait, bah, là, ça allait plus du tout. Parce que le bébé, il compensait beaucoup, il avait des tensions, il avalait beaucoup d'air, il gérait plus D'accord. du tout le réflexe d'éjection. Enfin, voilà. Donc, en fait, ça, c'est arrivé plus tard. Donc, chacun fait le choix pour que ça soit le bon timing par rapport aux symptômes, mais aussi parce qu'en fait, ben, les premiers mois de vie, ça s'est très bien passé. Et il avait pas beaucoup de tensions par rapport à ça. Et finalement, après, ben, il a fait pas mal de séances pour libérer ses tensions parce que du coup, il compensait beaucoup. Donc, voilà. Donc, est-ce que ce bébé, il aurait fallu vraiment attendre les 2 mois et demi s'il avait eu des soucis dès le début? Ben, forcément, parce qu'en fait, peut-être qu'il aurait été prêt très, très rapidement, quoi. Et donc, c'est pour ça qu'il y a des bébés qui peuvent avoir des frénotomies sur leur premier mois de vie, voire 15 jours, enfin, voire quelques jours. Nous, le bébé, le plus tôt qu'on ait fait, c'était 9 jours au cabinet, mais après, faut aussi arriver à avoir un rendez-vous.
Ouais, voilà. Faut aussi arriver à avoir un rendez-vous, bien sûr, c'est un peu le souci de temps en temps. Ouais, donc faut vraiment s'adapter au bébé qu'on a en face, c'est-à-dire qu'on peut avoir un bébé peut-être pas complètement prêt, mais encore en début de vie, avec un frein très restrictif, et ça peut valoir le coup de sectionner relativement rapidement pour lui éviter de se coincer plus. Et puis à l'inverse, on peut avoir des bébés beaucoup plus tard et il vaut mieux attendre encore un petit peu pour les préparer, parce que sinon ça va pas bien se passer.
Oui, et puis ce qui est important aussi, c'est que c'est un travail pluridisciplinaire. Donc avec l'allaitement, on travaille avec une consultante, parce qu'on n'est pas sur un allaitement souvent qui est physiologique, quoi. C'est un allaitement où il y a des problématiques, donc c'est vrai que c'est plus facile de se faire accompagner. Et donc ouais. Parfois l'allaitement, il est en danger, ou le bébé est en danger par rapport à sa prise de poids, les compléments sont difficiles, la lactation est difficile à maintenir, parce qu'on peut très bien
oui,
dire...
Oui, là, la question se pose pas, faut y aller.
Voilà, et du coup, parfois, eh ben, il faut faire le choix de... Oui, le bébé, il a encore beaucoup de tension, c'est pas le bébé qui arrive avec zéro tension, et puis c'est parti, mais peut-être qu'il va devoir, avoir plus de séances derrière, ça va pas tout régler de couper le frein, mais on va essayer d'avancer, vraiment en concertation avec le thérapeute manuel qui suit le bébé, la consultante en lactation, en disant, ben, là, on va avancer la fréno, est-ce qu'au niveau tension c'est jouable, et puis on va dire oui c'est jouable, et puis on va beaucoup travailler en post-fréno parce que sur le moment, bien sûr, on va couper le frein, donc il n'y a rien de magique. C'est d'ailleurs même encore aujourd'hui, il y avait une maman, bah, on a avancé ce rendez-vous, son bébé il a beaucoup de tension, il est suivi, il a déjà fait pas mal de sens, voilà, moi, je ne sais plus quel âge il a, mais je crois qu'il a 1 mois. Et la maman est quand même en grande difficulté. Et bon, après avoir coupé le frein, elle n'a pas une tétée sans douleur, parce que son bébé, il a encore beaucoup de tension. Donc, anatomiquement, c'est possible d'ouvrir grand la bouche. Mais il n'a pas une super bonne prise au sein. Elle a encore ses crevasses. Donc, sur la tétée, bah, ça fait encore mal parce qu'elle a encore les lésions. Donc, il n'y a rien du tout de magique. Mais par contre, on avance et elle va être suivie derrière avec... voilà, elle est très entourée derrière pour qu'on puisse avancer. Et parfois, ça va être plus facile aussi, je pense, pour le thérapeute manuel d'avancer alors qu'on Exactement. A enlevé la restriction anatomique, plutôt que d'essayer d'avoir un truc un peu ajusté avec la restriction, quoi. Parce que finalement, ça peut être difficile. Donc parfois, en post-fréno, bah, ça va être plus simple parce que là, on a vraiment enlevé le problème. Et donc, c'est vraiment là l'intérêt. C'est ça qui est super intéressant, c'est de pouvoir parfois travailler vraiment en discutant avec les professionnels qui entourent les bébés. Parfois, les bébés, ils sont très jeunes et ils partent de loin. Ils ont des réflexes de succion qui sont très mauvais. On travaille dessus les personnes autour travaillent dessus et ils ont pas mal de tensions. Et puis, ils sont très suivis et comme ils se sont entourés de la bonne équipe, et ben on arrive à des choses super, et ils sont pas arrivés super relax, sans tension, sans problème, avec des exercices faits depuis 1 mois et demi. Ça ne sert à rien du tout. Non, là il fallait avancer, et donc faut, voilà, c'est vraiment du cas par cas. Il n'y a pas de ouais. recette à suivre juste avant. C'est du cas par cas et on s'adapte. Et il faut savoir prioriser. Il faut savoir prioriser entre les tensions, le développement moteur, sensoriel et puis l'allaitement. Voilà, protéger aussi l'allaitement ou protéger le bébé s'il s'alimente pas. Même comme parfois ils sont non allaités aussi, on a la même problématique. Quoi.
Ouais, c'est voilà. les mêmes problématiques en effet. Même s'ils sont pas allaités, là, parce que dans tous les cas, il faut libérer ses bébés de ces tensions pour pas qu'ils grandissent dessus.
Tout à fait.
Et c'est là que parfois on est un peu pris en sandwich par certains bébés et de l'intérêt de travailler. Pas tout seul, parce qu'en fait c'est des problématiques où c'est vraiment intéressant d'avoir plusieurs avis pour prendre la décision la plus juste possible pour ce bébé-là à cet instant T. Entre les tensions qui sont là, qui sont concomitantes au frein, celles qui sont consécutives au frein, et essayer en fait de bien cadrer le traitement de ce bébé pour à la fois libérer anatomiquement, pour que cette libération anatomique permette aux tensions de se libérer, et à la fois il faut libérer assez le bébé pour que faire lâcher le problème anatomique fonctionne. Donc voilà, moi au cabinet c'est vrai qu'il y a certains bébés qui nous prennent un peu en sandwich comme ça, et il faut les voir de façon assez rapprochée, etc. Mais encore une fois, entourez-vous en fait d'une équipe. Alors Noëlla, elle travaille dans un cabinet où il y a tout sur place. C'est pas comme ça partout, mais pour les endroits où ça l'est, super. Sinon, entourez-vous d'une équipe qui se parle en fait, voilà, qui échange sur qu'est-ce que t'en penses, est-ce que toi aussi tu penses qu'on sectionne ce frein avant parce que ça va nous aider à libérer le reste des tensions, ou est-ce que tu penses qu'il faut encore le faire travailler. Et le mieux c'est ça en fait, c'est d'avoir le comment on appelle ça, le feedback de
oui, exactement,
c'est comme ouais, ça qu'on prend les meilleures décisions.
C'est vraiment de discuter ensemble, parce qu'en fait moi si j'étais toute seule, moi les parents m'appellent, ça va pas du tout, l'allaitement ça va pas du tout, oui on avance, allez on coupe, c'est parti, et en fait derrière ça suivrait pas du tout, parce que le bébé il est hyper tendu, ouais. parce qu'il compense beaucoup à chaque tétée, il se crispe totalement, et ouais. du coup moi avec ma baguette magique, ça marche pas toute seule, pas du tout. Donc c'est pour ça que c'est vraiment important de travailler ensemble, et qu'il n'y en a pas un qui passe avant l'autre, quoi. C'est vraiment en concert. Et donc la communication, c'est ça qui fait dans le travail d'équipe, même qu'on soit au même lieu ou non, quoi. Mais en tout cas, de discuter pour savoir, voilà, quand il y a des priorités, il faut savoir les prendre. Et puis, y a des parents qui peuvent avoir des problématiques identiques, mais il y en a un qui sera plus urgent que l'autre, parce qu'il y a aussi le contexte qui fait que dans telle famille, ça va être, l'allaitement est plus en danger que dans l'autre famille où ça roule, quand la maman, c'est son troisième enfant et qu'elle, on lui dit, faut tirer son lait complémenté aux dalles, etc. Il y a des parents qui peuvent pas, ou même parfois juste avec un enfant, l'épuisement du postpartum, le contexte fait que parfois c'est trop difficile, alors que d'autres, ça y est, ils vont être à deux, ils vont pouvoir s'aider, puis ils vont pouvoir tenir quelques temps, et d'autres c'est pas du tout possible. Donc c'est vraiment du cas par cas pour la préparation et pour le contexte et pour les urgences.
Ouais, voilà, c'est là que nous, en tant que professionnels, on est là pour vous accompagner là-dedans. À la fin, la décision, c'est toujours vous qui la prenez, mais on est là pour vous accompagner, pour essayer de savoir tous ensemble quel est le meilleur moment pour faire ci ou ça avec votre bébé, fonction du contexte dans lequel vous évoluez et de l'urgence de la situation.
Tout à fait.
Et alors maintenant, très bien, donc mon bébé est prêt.
Ouais.
Je l'ai préparé, j'ai fait les exercices, il a vu un thérapeute manuel, plus ou moins un orthophoniste... Comment ça va se passer? Comment ça se passe, cette intervention? La première question que les parents posent, et moi ils me la posent hyper souvent, c'est « mais est-ce que ça va lui faire mal ?»
Alors, c'est une procédure qui est assez simple. Alors selon le ciseau ou le laser, en fait, c'est vraiment une question de secondes pour couper. Selon le laser, c'est plus ou moins rapide, le ciseau aussi. On va couper des structures qui sont quand même un peu innervées. Plus ou moins, mais en tout cas elles le sont, donc pour moi ça reste une intervention qui peut engendrer de la douleur sur le moment, même si tout le monde n'est pas d'accord sur la quantité d'innervation et tout. Donc c'est vrai qu'à la maternité, c'est la petite membrane, elle est très très peu innervée, surtout sur les premières mois de vie, donc comme ça prend vraiment qu'une seconde, il n'y a pas forcément d'anesthésie, mais en tout cas la phrénotomie en elle-même, ça reste quand même un acte chirurgical. Donc pour moi, ça indique une anesthésie.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
D'accord.
Voilà. Alors, une anesthésie locale, parce qu'en réalité, on va vraiment couper que la partie superficielle. Ça va, on est vraiment à moins d'un millimètre de profondeur, hein, en réalité. Donc, il n'y a pas besoin forcément d'injecter un produit pour les tout petits bébés. Voilà, ça peut être par le froid, ça peut être par un gel, ça peut voilà, par différentes manières.
En tout cas, on essaie de limiter un peu l'éventuelle douleur avec un produit anesthésiant.
Voilà, tout à fait. En plus, chez les bébés, on peut s'aider aussi avant 3 mois, on peut s'aider de solutions sucrées, des tétés aussi. Les études ont montré que la tétée, ça diminue aussi la douleur d'un geste opératoire. Donc, il y a plein de choses différentes.
Et donc, la consultation, comment elle se déroule quand les parents arrivent chez toi pour faire sectionner le frein de leur bébé?
Alors, moi, je travaille en équipe, donc ce n'est pas le cas de tous ceux qui vont couper. Moi, je travaille avec une chiropracteur et une consultante en lactation qui sont sur place.
D'accord.
Donc du coup la chiropracteur elle va réaliser une séance puisque toujours dans le but d'éliminer les tensions puisque là moi je vais libérer l'anatomie mais s'il y a des tensions qui gênent ben, la mobilité elle va pas être pleine. Donc elle va faire notre chiropracteur elle va faire une séance et ensuite moi je vais préparer bébé donc avec le gel anesthésiant. On va prendre une petite couverture, souvent des parents en fait pour les contenir un peu pour les bras, ça c'est pour la sécurité. Donc voilà, comme les emmailloter quoi, la dernière seconde. Et moi les parents ne sont pas dans la salle pendant l'intervention, c'est pas le cas de tous ceux qui coupent. Hein. Parfois les parents sont là, parfois les parents ne sont pas là. Moi j'ai fait le choix, les parents ne sont pas là et c'est comme ça dure avec mon laser, ça dure 10 secondes pour couper un frein. Je prends le bébé pendant quelques minutes, sachant qu'on l'a préparé ensemble, parce qu'il faut quand même laisser le temps de mettre les gants, de vérifier que tout est bien fait. Voilà. Et ensuite, je ramène le bébé, donc c'est endormi encore une quinzaine de minutes, on va dire, avec le gel anesthésiant. Donc, ils ne peuvent pas téter tout de suite, ça c'est l'inconvénient du gel. Ou du moins, ils peuvent essayer, d'accord. Donc on va dire, il y a toujours des vaillants qui arrivent. Et les autres, non. Et du coup, ça, c'est la grande frustration d'un bébé qui ne peut pas téter devant le sein de sa maman. Donc, ça leur plaît pas toujours, hein, de toute façon, de ne pas pouvoir téter. Mais en tout cas, quand l'anesthésiant est parti, ils peuvent tous téter. Voilà, ils peuvent tous téter.
D'accord.
Juste après, c'est comme d'habitude, quoi. Voilà.
Donc, ils tètent avant de repartir du cabinet.
Voilà, après, ils peuvent têter avant de repartir. Nous, on leur remonte les exercices. Et surtout, maintenant, il y a une plaie dans la bouche. Et du coup, il va falloir gérer un petit peu la cicatrisation de cette plaie. Et on leur montre les étirements post-phrénotomie qu'il va falloir réaliser pour la gestion active de la cicatrisation pendant les semaines qui suivent la phrénotomie. Et ça,
Oui, donc là, c'est la consultante qui montre tout ça ensuite.
Voilà, c'est la consultante qui montre ça. Parfois, c'est moi. On reprend un petit peu le post-phréno. Nous, on a une consultation préalable avant, donc souvent, on a déjà un petit peu expliqué comment ça se passe. Mais ça se passe comme ça. Donc du coup, ils sont pour un geste qui dure vraiment 10 secondes pour couper le frein, comme je disais.
Ils passent la journée chez
vous. Ils passent avec nous bien 1h15, 1h30. Parfois plus, têtes de sieste. Voilà.
Ok. Très bien. Il y a des risques à pratiquer une phrénotomie ou pas?
Les risques, alors ça reste toujours une intervention, donc il y a toujours des risques, mais les risques sont assez faibles, c'est-à-dire la complication la plus fréquente, c'est l'inflammation. En fait, ben là, pour la plaie, comme je disais, donc il va y avoir une plaie en forme de losange sous la langue ou sous la lèvre. Cette plaie, ça se refermer en plusieurs semaines, et la première phase de la cicatrisation, c'est l'inflammation de quelques jours, donc en moyenne c'est 3 jours, et donc la complication la plus fréquente c'est que l'inflammation dure un peu plus longtemps, ce qui n'est pas très grave puisque là ça va juste être le confort et la douleur du
bébé. Oui, c'est le confort pour le bébé.
Voilà. Donc souvent cette inflammation elle peut être gérée avec un antidouleur assez simple, et du coup faut juste en prendre un peu plus pour certains bébés, voilà. L'autre le plus fréquent, ça va être les saignements sur le moment ou dans les premières 24 heures. Il n'y a pas encore le tissu de cicatrisation qui s'est mis sur la plaie. Donc ça peut resaigner, surtout pour la lèvre parce que c'est très vascularisé, mais il n'y a pas de structure vasculaire dangereuse à cet endroit-là. Donc la plupart du temps, s'ils saignent, mais on les remet à téter et ça plaque la plaie et ça s'arrête. Donc ça aussi, c'est une complication assez simple. Les complications les plus fréquentes sont quand même assez simples. Il n'y a pas de... Les complications infectieuses ne font pas partie des suites de la phrénotomie parce que dans la bouche, ça cicatrise très bien. C'est comme quand...
Bien et vite.
Voilà, bien et vite. Ouais. Et donc, c'est comme quand on vous enlève une dent, même sans suture, sans rien, alors que l'os, finalement, il est à nu. Vous pouvez manger votre steak, faire n'importe quoi. Enfin, voilà. Enfin, pas fumer. Mais en tout cas, on peut... Oui, sa vie. Et...
Ne faites pas fumer vos bébés en post-chronotomie, voilà. S'il vous plaît.
et du coup, ça cicatrise assez bien. Après, il y a des suites un peu plus rares, comme des petits granulomes, c'est des excès de tissus de cicatrisation, des choses comme ça qui peuvent exister. Ça pose pas de problème fonctionnel.
Comme je dis souvent aux patients, parce qu'ils me demandent moi aussi si c'est risqué, je leur dis globalement non, c'est très peu risqué. Et à la fois, c'est l'avantage de la phrénotomie et aussi son inconvénient, c'est que comme ça cicatrise vite et bien, on a très peu de temps pour que la langue récupère toutes ses capacités dans ce laps de temps de cicatrisation.
C'est ça, voilà. Et d'ailleurs, on va dire que quelque chose qu'on pourrait mettre dans les complications, c'est le réattachement. C'est le fait qu'il y ait une partie qui se recicatrise comme avant. Donc, on reperde de l'amplitude par rapport à la phrénotomie. Ouais. Que du coup, les résultats fonctionnels ne soient pas complets. Voilà.
Oui, d'accord. Donc, ça, c'est un peu la partie où on dit qu'il y a eu un échec, entre guillemets, de l'intervention. Mais est-ce que c'est vraiment un échec pour tous les bébés? Est-ce que...
Et non, pas forcément. Parce que déjà, il y a vraiment une différence entre l'anatomie et la fonction. Parce qu'on peut très bien avoir déjà, pour certains bébés, on peut avoir des freins restrictifs et avoir aucun symptôme. Donc, déjà, il n'y a même pas forcément d'intervention. Mais même en post-phrénotomie, pour ceux pour qui c'était indiqué, on peut très bien avoir une totale réussite fonctionnelle. Et finalement, le bébé, il a eu un rattachement même très faible. Mais il a perdu un peu d'amplitude quand même. Voilà, même parfois, ça m'arrive, moi, tout va super bien, et c'est quand je les vois au contrôle à un mois ou deux mois, je vois qu'en fait, il y avait une petite partie réattachée. Donc anatomiquement, on n'est pas parfait, mais au niveau fonctionnel, on est nickel. Donc,
et c'est ça qui est important, c'est le fonctionnel à la fin.
Voilà, c'est ça. Donc c'est pour ça que nous, ce qu'on veut, c'est gérer après qu'au niveau anatomique, ça cicatrise le mieux possible. Parce que plus on est bon anatomiquement, plus on aura de chances d'être bon après au niveau fonctionnel. Mais parfois, il y a des bébés au niveau anatomique, non, c'est pas parfait, ils ont un réattachement partiel et au niveau fonctionnel, ça va. Et pour d'autres, il y aura un réattachement partiel et au niveau fonctionnel, ça va pas. Et à ce moment-là,
Ouais, et dans ce cas-là, du coup, qu'est-ce qu'on fait? On peut recommencer?
Dans ce cas-là, on peut recommencer, pas tout de suite, parce que s'il y a eu un réattachement, c'est pour certaines raisons. Donc déjà, peut-être ces raisons sont encore là. Pourquoi il n'a pas bougé sa langue pleinement? Donc, on va pas le faire tout de suite. On lui a libéré une partie. Donc, on va remuscler déjà cette partie. On va réaméliorer la fonction. On va travailler là, par contre... Moi, dans mon cas, je demande à travailler avec un orthophoniste systématiquement, là, par contre, pour avoir vraiment quelqu'un qui va être là pour la rééducation, parce que là, on ne va pas le faire deux, trois, cinq fois. Donc là, on va vraiment se faire accompagner au niveau remoteur et préparer le bébé, mais on n'interviendra pas immédiatement. Déjà, on va attendre peut-être minimum 2 mois, parce que souvent, il leur faut déjà, pour récupérer un peu plus de tonicité, de remuscler et tout, il leur faut 4 à 6 semaines. Donc, on va se laisser le temps vraiment d'avoir les effets de la première phrénotomie, de travailler vraiment au niveau oromoteur. Et ensuite, on va refaire, si c'est indiqué, s'il y a toujours des symptômes, on le refera minimum 2 mois après pour de meilleures chances. Mais déjà, on a libéré certaines choses, donc on va travailler là-dessus. Un peu comme l'histoire de la phrénotomie de maternité. C'était partiel, mais on continue la rééducation et boum, après, on fait la phrénotomie complète.
Ouais, on laisse un laps de temps à ce bébé pour développer ses compétences fonctionnelles autour de ce qui a déjà été fait, et ensuite on va plus loin si c'est nécessaire.
C'est ça. En fait, il faut imaginer, parfois il y a un bébé, mais on va faire la phrénotomie, il a un réattachement. Mais si on recoupe tout de suite, il y a de fortes chances qu'il revienne à l'identique, quoi. Si aujourd'hui il a cette force musculaire, cette tonicité qui lui a permis d'élever sa langue que jusqu'à une certaine limite, il n'y a pas de raison que la semaine suivante ça soit plus, quoi. Donc on va attendre un petit peu et lui donner plus de chance.
Ok. Les suites d'une frénotomie pour les parents, donc on l'a compris, il y a des exercices, enfin c'est quasiment les mêmes exercices qu'avant la frénotomie qu'on refait après, plus cette notion d'étirement là, et mobilisation de la langue pour éviter que la cicatrice se refasse trop serrée.
Oui, en fait, ils vont continuer leurs exercices de rééducation, puisque là, le bébé, on essaye toujours de lui faire bouger la langue, mais cette fois-ci, il a plus d'amplitude. Donc, bon, la première éducation du bébé, c'est la tétée, de toute façon. Mais on va essayer de le faire travailler voilà, dans d'autres mouvements, ou de mobiliser. Ici, au niveau postural, il y avait des bébés qui avaient du mal à être mobilisés sur le ventre, sur le dos, en extension, en enroulement. Donc, on va leur faire travailler tout ça. Donc, ils continuent les exercices de rééducation. Et à côté, on a une plaie. Et cette plaie, elle veut cicatriser à l'identique, comme avant. Et on veut maintenant qu'elle gagne de l'amplitude, donc on veut pas qu'elle cicatrise comme avant, et donc on va gérer cette cicatrisation, on va aider son bébé à pouvoir lever la langue, lever la lèvre, en fait étirer les muscles qui n'ont jamais été étirés jusque-là, puisqu'ils n'ont jamais eu cette amplitude. Un peu comme l'histoire du bras. Là, on a libéré le bras, je vais pas tout de suite lever mon bras en haut. Hein. Si j'étais en rééducation, déjà avec mon plâtre, j'ai perdu du muscle. Je vais aller voir un kinésithérapeute et c'est lui d'abord qui va me mobiliser mon bras passivement pour les lever. Et quand il aura fait suffisamment, je vais commencer à pouvoir le faire moi-même. C'est un petit peu cette idée-là. On va aller lever la langue pour le bébé, nous, de manière passive. Et puis à force, le bébé va y arriver de lui-même jusqu'à cette amplitude. Mais au début, il n'a pas la tonicité, forcément, pour aller les lever au max. Sauf que comme ça cicatrise, si on le laisse faire de lui-même, peut-être qu'il va arriver que jusqu'à une certaine amplitude, mais pas complète.
D'accord.
C'est pour ça que nous, on va aller le faire pour lui, donc selon le type de frénotomie, avec suture, sans suture, la gestion de la plaie se fait différemment, mais en tout cas, quand il y a une plaie en forme de losange comme ça, alors il n'y a pas d'étude qui dit qu'il faut faire des étirements ou faut pas faire d'étirements, là-dessus, il n'y a pas de consensus scientifique, donc chacun le fait en...
Non, c'est à l'expérience.
Voilà, chacun le fait en conscience. Moi, je le vois aussi dans le résultat, on disait de faire certaines choses, puis on a modifié parce que les résultats étaient moins bons ou meilleurs, donc c'est pareil. Chacun fait en conscience dans le suivi de ses propres patients. Moi, ce que je veux, c'est qu'ils aient les meilleurs résultats.
Oui, en se disant que tous les professionnels qui satellitent autour des freins en apprennent encore au quotidien. C'est encore un sujet où, comme tu le disais, il n'y a pas de consensus scientifique sur toute la partie prise en charge. Donc, on fait avec ce qui fonctionne le mieux au cas par cas avec chaque bébé.
Voilà, exactement. En fait, même pour les exercices de rééducation, il y a des personnes qui vont vous dire il n'y a pas de rééducation à faire, on coupe et la tétée fait le reste, en fait, puisque le bébé mobilise sa langue. Mais en fait, en faisant ça, au niveau clinique, il y a des gens qui se sont rendus compte que il y a beaucoup d'échecs parce qu'il y a des bébés, ils ne vont pas forcément se repositionner. Des bébés, ils ont des tensions. Il y a des bébés, ils ont d'autres facteurs qui font qu'ils ne la mobilisent pas. Donc, c'est pour ça qu'on fait ces exercices de rééducation pour donner les meilleures chances au plus grand nombre. Et c'est pareil pour les... C'est pour moi, je vois un peu de la même manière pour les étirements. Donc, il y a des personnes qui font ça depuis plus de 10 ans, des frénotomies de manière exclusive, et ils partagent leurs résultats et ils font des étirements et ils ont de meilleurs résultats comme ça. Donc, moi, je les suis et je le vois aussi au quotidien pour les bébés qui vont avoir plus de difficultés. Ces étirements sont là un peu pour pallier les difficultés qu'ils ont au début. Et donc, moi, je le propose également sur ces semaines de cicatrisation. Et l'objectif, c'est de lever la langue ou lever la lèvre pour que ça cicatrise avec cette nouvelle amplitude. Et l'objectif, c'est que si on les fait très régulièrement, s'il y a des petites adhérences qui sont arrivées, elles vont s'en aller ni vues ni connues. Mais si on les espace de beaucoup et qu'il y a une adhérence, soit elle ne va pas se détacher, soit elle va se détacher de manière... douloureuse sûrement. Donc, c'est pour ça que... Donc,
mieux vaut les faire fréquemment.
Voilà, c'est pour ça qu'on cherche une régularité par rapport à ça. Donc, il n'y a pas d'étude qui va dire qu'il faut les faire toutes les 2 heures, les 6 heures, les 12 heures. Donc, chacun le fait en conscience.
En tout cas, l'objectif, c'est que ce fameux losange reste un losange, quoi. Il ne se recolle pas.
Voilà, c'est ça. L'objectif, c'est au moins que ça cicatrise bien. Donc, il y a des bébés où on voit ça roule depuis le début, et d'autres bébés, on voit que ça va être un peu plus difficile pour eux. Donc, c'est ceux-là qu'il faut vraiment bien suivre.
Souvent, je pense qu'on a fait, un bon tour de comment ça se passe, qu'est-ce qu'il faut faire autour, etc. Quand on leur explique ça, les parents... il y en a quand même qui sont réticents à l'idée d'aller sectionner quelque chose dans la bouche de leur bébé. Alors, certains diront, est-ce que c'est que pour l'allaitement ? Parce que si c'est que pour l'allaitement, laissez tomber, on va pas l'embêter. Qu'est-ce qu'on pourrait dire à ses parents pour les rassurer éventuellement et mais leur faire comprendre l'importance de le faire si ça semble nécessaire ?
En fait, à la base, c'est sûr que personne n'a envie d'aller sectionner quelque chose dans la bouche de son bébé. C'est sûr, personne. En plus, c'est pas parce que le bébé a des freins et des soucis avec des symptômes que c'est un bébé qui pleure tout le temps. Donc parfois, même ils ont un bébé plutôt souriant. Alors on se dit, mince, je vais aller l'embêter. Le pauvre, en plus, là, dans cette histoire de frénotomie complète, avec une rééducation autour, une gestion de la plaie et tout, donc c'est assez anxiogène, c'est vrai. Donc déjà, rien n'est obligatoire pour eux. À la base, on n'est pas, personne ne les oblige à sectionner. Ils peuvent travailler tout ce qui est autour des freins. Comme je disais, la consultante en lactation, elle peut aider à voir de quelle manière on peut pallier de quelle manière on peut aider son bébé à avoir dans sa succion qui n'est pas optimale, protéger sa lactation, etc. Le thérapeute manuel, il va travailler tout ce qui est autour. Les exercices, ils vont permettre de remuscler, de détendre. Donc, on peut travailler tout ce qui est autour des freins. S'il reste des symptômes, c'est à eux de décider si ça vaut le coup par rapport au confort de leur bébé, quoi. Voilà. Si leur bébé, ça va, les symptômes sont plutôt minimes, mais ils ont très bien le droit de ne pas le faire après, ou de le faire plus tard aussi. Parce qu'on peut le faire à tout âge. Après, ça va être une question de coopération. Il y a une période d'âge où quand même la coopération va être difficile pour la rééducation entre 1 et 3 ans. Les bébés, ça va être difficile. Les enfants, ça va être difficile pour eux de comprendre les tenants et les aboutissants d'une frénotomie. Mais,
Mais
en tout cas, il n'y a rien d'obligatoire. Ça reste un geste qui est simple, avec des risques qui sont assez faibles. Mais ça demande de l'implication des parents. Donc, c'est vrai que c'est un peu stressant. Mais en soi, ça reste quand même une procédure qui est très simple. Et même si on parle d'étirement, même si on parle de rééducation, d'exercice et tout, même ne serait-ce que les étirements, ça prend même pas 10 minutes, même pas en 24 heures en fait. Donc le bébé, en réalité, il vit sa vie tout le reste de la journée. C'est simple pour lui quand même.
Oui, c'est des exercices qui sont relativement simples à mettre en œuvre.
Oui, voilà. C'est juste que moralement, pour le parent, c'est un peu comme si on leur donnait un médicament toutes les 3-4 heures. Se dire, ah mince, je vais aller l'embêter. Quoi. Voilà, la charge mentale est plus lourde, je pense. Pour les parents, c'est un peu lourd. Mais en tout cas, ça reste un geste qui est facile. Et surtout, il y a quand même des résultats qui sont là aussi. Et après, pour le confort des bébés, ça leur fait beaucoup de bien. Et souvent, les gens, la plupart du temps, les parents ne le regrettent pas. Donc, ça reste quelque chose qui est une procédure qui est simple pour le bébé. La douleur, elle est facilement gérable pour les bébés, et les bénéfices peuvent être là au-delà de l'allaitement, c'est sûr, pour les tensions, pour la respiration, pour le confort, mais personne ne les oblige, ils peuvent vraiment prendre le temps. Parfois il y a des parents qui même avec les exercices ça va mieux, donc ils se disent est-ce qu'on va le faire maintenant, pas maintenant, et ils se laissent le temps de réfléchir aussi, c'est leur droit, puisque finalement le bébé doit être prêt, mais aussi les parents, dans le sens où ils doivent l'accompagner.
Okay. Oui, et puis de toute façon, il n'est jamais trop tard pour faire sectionner un frein qui est restrictif. Donc ça peut être fait plus tard si ce n'est pas le moment pour vous et pour votre bébé. Ça pourra
être fait plus tard. Dans tous les cas, il y aura une rééducation. Donc ce sera plus ou moins facile, ou peut-être qu'il y aura des choses à rattraper supplémentaires plus tard. Si par exemple la croissance du visage, il n'y a plus trop de place, il faudra peut-être faire des choses supplémentaires. Mais en tout cas, personne ne les oblige à le faire du moment que le bébé n'est pas en danger. Il peut être alimenté et dormi. Donc je sais pas si c'est vraiment un bon boost. Je sais pas si c'était très rassurant. Mais en tout cas, ça reste quand même assez simple. Et du moment qu'on est accompagné, qu'on a des gens pour répondre à nos questions, qu'il y a des personnes qui sont là dans le post-fréno, on n'est pas tout seul avec la plaie de son bébé et se dire bon, qu'est-ce que je fais maintenant? Moi je conseille qu'il faut bien se faire accompagner, s'entourer, même moralement, s'entourer des personnes qui croient en ce que l'on fait pour son bébé. Ça fait du bien aussi moralement, au lieu de se dire ah, mince, qu'est-ce que tu racontes, faut aller vers ci, vers ça, et puis on n'est pas soutenu.
Être soutenu sur tous les plans, que ce soit par les professionnels ou par son entourage aussi, qui soit bienveillant autour des démarches.
Voilà, tout à fait.
Et alors à l'inverse, les professionnels me disent que mon bébé n'a pas de frein restrictif, Moi j'ai quand même un doute. Je me dis, tiens, il a quand même plein de symptômes qui laissent penser, enfin qui me font penser à ça. Comment je peux être sûre du diagnostic des soupçons, des non-soupçons de ces professionnels? Qu'est-ce qui peut me laisser penser que la personne a bien regardé ou mal regardé? Est-ce que tu as quelques tips à nous donner pour que les parents ils puissent s'orienter? Ils sont allés chez le pédiatre qui leur a dit non, il n'y a pas de frein, vous inquiétez pas, tout va bien. Qu'est-ce qui peut guider les parents pour savoir s'il a vraiment regardé, s'il s'y connaît ou non?
Oui, alors dans un premier temps, si on attend la réponse du pédiatre ou du médecin, à part certains qui connaissent un peu, tout le monde ne connaît pas les freins. Tous les types de freins restrictifs, on parlait surtout de maternité antérieure, mais il y a ceux qui sont accrochés moins là. Donc, il faut se dire déjà dans un premier temps que le professionnel de la succion de son bébé, ça n'est pas son pédiatre ou son médecin généraliste. Ils ont plein d'autres choses à regarder pour le bébé sur ses premiers contrôles, là, des 2 semaines, 1 mois, etc. Et du coup, c'est pas les professionnels de la succion. Pas du tout. Donc, si on a un souci avec son allaitement, on consulte un professionnel de l'allaitement, mais son pédiatre n'est pas un professionnel de l'allaitement la plupart du temps, même si certains effectivement ont fait des formations. Mais voilà. Donc déjà, si on a un souci, on va voir des personnes pour qui c'est vraiment le domaine. Si son bébé n'est pas allaité, on peut aussi voir des consultantes en lactation pour tout ce qui est succion du biberon, ou des orthophonistes aussi. Par rapport à ça, moi j'ai déjà eu des bébés, ils prennent leur biberon en 1 heure, et puis finalement le pédiatre, il ne sait pas trop quoi faire, et il l'a adressé à une orthophoniste. Et l'orthophoniste, même si elle n'était pas formée au frein, elle a vu effectivement, ça n'allait pas, et elle a pu réadresser à quelqu'un qui était formé. Donc le souci, c'est de trouver les personnes dans le parcours, et c'est vrai que ce n'est pas forcément facile. En tout cas, il ne faut pas forcément attendre du pédiatre que ce soit lui qui dise oui ou non, je balaye cette hypothèse. En fait, si à un moment on veut vraiment éliminer l'hypothèse des freins, il faut trouver quelqu'un qui a vraiment regardé. Donc il faut se dire, pour regarder, la personne elle va regarder tous les mouvements de la langue. Donc déjà, elle va y mettre les doigts dans la bouche, va regarder si la langue elle bouge dans différents mouvements, de quelle manière aussi. Il peut téter le doigt si c'est un tout petit bébé pour vérifier sa succion ou vérifier une tétée, etc. Donc déjà, pour dire non, il n'y a pas de frein, il faut vraiment avoir regardé la langue dans tous ses aspects. Donc, si ils ont bondi d'un regard, ah non, c'est bon, il n'y a pas de frein, juste du regard, ça ne marche pas. Voilà. Il y a des freins qui sont évidents, des freins restrictifs qui sont évidents. Donc, oui, de façon évidente, on peut dire, ah oui, c'est sûr, il y a un frein. Mais éliminer cette hypothèse, on ne peut pas l'éliminer d'un revers de la main. Ce n'est pas possible. Ouais. Parce qu'il y en a qui sont beaucoup moins évidents. Donc déjà, se dire, s'il élimine cette hypothèse en 2 minutes, ça marche pas. Ensuite, si par exemple on se dit ça y est, je suis tombée sur quelqu'un qui connaît un petit peu les freins, il me dit non, mais c'est bon, il n'y a pas de frein. Bon, on peut aussi lui demander l'anatomie du frein. Ah, mais c'est quel type de frein? Parce que normalement, anatomiquement, il y a des classifications, même si ça ne change pas grand chose, mais bon, on peut dire 1, 2, 3, 4 ou des freins antérieurs ou postérieurs. Tout le monde a un frein, avant d'avoir une maladie spécifique. Tout le monde a un frein de langue, tout le monde a un frein de lèvres la plupart du temps. Donc,
Oui, la question, c'est pas est-ce qu'il y en a un, c'est lequel c'est et est-ce qu'il est serré.
Voilà. Donc, comme ça, si la personne dit non, je vous dis qu'il n'y a pas de frein, déjà, ça ne marche pas trop.
Déjà, c'est pas bon signe.
Donc, parce que tout le monde a un frein, donc au moins on aurait pu un peu nous indiquer c'est un frein de type 3, des choses comme ça pour se dire un petit peu ce que la personne parle. Et si on va chez, par exemple, tout de suite chez un ORL où on dit ah non, moi elle m'a parlé de frein, je fonce là-bas pour savoir. Donc, il y a beaucoup de familles, en tout cas que je vois, qui parfois on dit j'ai vu un ORL, j'ai vu un maxillo, etc., qui m'a dit qu'il n'y avait pas de frein. Du coup, avant d'aller consulter cette personne, on peut lui poser la question, est-ce que vous coupez les freins postérieurs? C'est-à-dire, est-ce que vous coupez les freins qui ne sont pas juste accrochés devant? Donc ça, c'est, on parle frein antérieur, frein postérieur, c'est pas une vraie classification, mais en fait, c'est un petit peu dans le langage courant.
Dans le langage courant entre pros. Ouais.
Voilà. Et donc, du coup, si on lui dit, est-ce que vous coupez les freins postérieurs, il saura un petit peu de quoi on parle. Et donc, soit il vous dira, je vois pas de quoi vous parez. Donc déjà, peut-être que lui, il ne coupe que les freins antérieurs ou que la partie antérieure, donc peut-être qu'il ne verra pas du coup les autres types de freins. Et si vous dites oui, je coupe les freins postérieurs, on peut se dire que peut-être il voit tous les freins. Et ça arrive aussi qu'il y ait des personnes, des ORL, il y en a tout près de mon cabinet, qui ne coupent pas les freins postérieurs, mais qui les voient. Ils vont dire, il y a un frein postérieur, moi je ne m'en occupe pas. Mais au moins, il sait de quoi on parle, et donc il n'a pas non plus... il n'a pas non plus enlevé ça du revers de la main, quoi. Enfin, enlevé cette hypothèse.
Non, et ça, c'est plutôt bon signe de la part d'un professionnel qui dit juste, bon, bah voilà, en effet, il y a quelque chose, mais c'est pas moi qui m'en occupe, et ils peuvent, dans ces cas-là, ils réadressent.
Exactement, voilà. Et ça, c'est bien. Donc, du coup, une question qu'on peut poser, même si le bébé n'a pas de frein postérieur, c'est est-ce que vous coupez les freins postérieurs ? Pour moi, c'est une astuce pour dire, ben, est-ce que déjà, il va prendre en compte tous les types de freins avant de m'envoyer balader.
Ok, donc c'est quelqu'un qui met à un moment ou à un autre les doigts dans la bouche de votre bébé, qui vérifie les mouvements, teste le frein manuellement et qui n'a pas juste jeté un coup d'œil. Et qui va poser des questions évidemment sur le contexte et le fonctionnel, pas que l'anatomique, mais qu'est-ce que ça engendre
Voilà, si ses seuls critères, c'est est-ce que le bébé prend du poids et il est en vie,
ça, c'est pas,
c'est
bon.
Pas le seul critère, voilà. D'ailleurs, je pense que les bébés que je suis, il y a peut-être qu'un tiers qui a des problèmes sur leur courbe de poids, et peut-être même pas, quoi. Mais tous les autres, c'est pas une question forcément de problème de prise de poids. Les bébés, c'est pas juste des systèmes digestifs avec des bras, quoi. Donc voilà, si le seul critère c'est il prend bien du poids, c'est bon, ça ne suffit pas, quoi.
C'est pas suffisant. Tant mieux, parce que ça évite un problème de plus, mais c'est pas suffisant.
C'est ça, voilà. Et l'autre critère, c'est vous avez pas de douleur au sein, non, c'est bon, voilà, ça n'est pas non plus le seul critère à prendre en compte.
Pareil.
Donc c'est vraiment quelqu'un qui
a
regardé.
Des bébés avec des freins très restrictifs, on sait pas trop comment, mais arriver à ne pas faire mal à leur maman.
Oui, c'est ça. Donc voilà, quelqu'un qui va regarder un petit peu l'ensemble pour se dire, il y a ça anatomiquement et il y a ça comme problématique. Et si la personne vous dit non, il n'y a pas de frein, il faut qu'elle vous trouve une autre solution, quoi. Quelqu'un à qui vous adressez, parce que s'il y a des problèmes de succion, les réponses comme il ne s'est pas testé, c'est comme ça. Il y en a qui croquent, il y en a qui ne croquent pas.
Ouais, en fait, on ne doit pas vous laisser sans solution. Voilà. On ne doit pas juste vous dire que c'est de votre faute, la faute de l'allaitement ou que ce bébé tète mal et puis voilà. C'est la vie, pas de bol à la loterie, vous n'êtes pas tombé sur le bon. Ça, c'est pas du tout une réponse satisfaisante. Si la personne en face n'a pas la solution, elle doit au moins creuser pour que quelqu'un d'autre vous en apporte une.
C'est ça, voilà. Je pense que ça, c'est normalement tout personnel de centre, professionnel de centre, oui. Doit avoir normalement, c'est au moins faire ça au minimum. C'est-à-dire, quand c'est pas dans notre champ de compétences, on délègue, on oriente, parce qu'on a le droit vraiment de pas avoir toutes les réponses. Moi-même, je les ai pas. Toutes les réponses, parce que du coup, on m'adresse des bébés qui ont des soucis de succion, et parfois, c'est pas que les freins, et donc, j'ai pas forcément la réponse ou la solution, mais du coup, pouvoir réadresser. Voilà. Donc si on vous dit juste la vie, ça marche pas, et voilà, il faut aller creuser, trouver quelqu'un, en tout cas, s'il y a un problème, trouver quelqu'un qui sait la spécialité et qui vous réadresse s'il ne vous apporte pas de piste, quoi.
Ouais, voilà, nous en tant que professionnels, on se doit d'aller creuser quand il y a un truc qu'on ne sait pas, qu'on ne connaît pas. C'est l'occasion pour nous en fait d'aller se renseigner et d'apprendre un truc de plus. Donc soit ils vous orientent correctement, soit orientez-vous vous-même autrement si vous n'avez pas de solution et pas d'orientation non plus.
Oui. La difficulté, c'est qu'il y a beaucoup de familles qui font un peu le parcours du combattant. Ils ont vu 2 ORL, 3 ostéos. On les a un petit peu envoyés bouler, quoi, mais en même temps, mais ils n'ont pas eu de solution. Et puis un jour, ils tombent sur quelqu'un et c'est bon. Alors, parfois, ils sont très tristes parce qu'ils sont tombés sur quelqu'un. Le bébé a déjà 7 mois. Ou parfois l'allaitement a déjà été mis à mal, mais c'est vrai que parfois c'est le parcours du combattant et c'est vrai que c'est ça qui est difficile moralement pour les familles, quoi.
Ouais, c'est lié au fait que ce soit encore une problématique pas toujours bien renseignée auprès des professionnels de santé, et donc certains ne savent pas, mais ne savent pas qu'ils ne savent pas, en fait.
Oui, c'est ça. Exactement.
Ouais, c'est tout le problème.
On ne sait pas que quelque chose existe si on n'en a pas connaissance de toute manière. Mais voilà.
Ok, donc si on veut faire un petit résumé de ça, si j'ai en face de moi un professionnel qui va évaluer si mon bébé a un frein de langue ou non, en tout cas s'il est restrictif, c'est quoi les points que je peux checker en tant que parent pour savoir s'il a l'air de vraiment s'y connaître ou pas?
C'était les mouvements de la langue. Donc, est-ce que la personne, elle va regarder les différents mouvements, mettre vraiment les doigts dans la bouche pour aller voir l'anatomie du frein, quel type de frein c'est. Donc, on peut demander aux professionnels quel type de frein c'est, et même aussi pour les consultantes en lactation, toutes ne sont pas formées aux freins restrictifs. Donc, même si on la voit et qu'on a des soucis, on peut très bien aussi lui poser ces mêmes questions, voir si elle va vraiment checker tout ça, lui demander quelle est l'anatomie du type de frein, si elle connaît le frein postérieur, voilà. Et aussi, une question qu'on peut aussi poser quand on va voir un professionnel, au lieu de dire, par exemple, si on va avoir un chiropracteur, une consultante en lactation, bon, vous connaissez les freins? Parce que tout le monde va vous dire, je connais les freins. Hein, parce qu'au minimum, tout le monde connaît les freins de l'histoire de maternité, quand on fait un peu de pédiatrie. Mais on peut leur demander aussi, est-ce que vous faites les suivis pré- et post-frénotomie? Puisque là, dans les frénotomies complètes, on est dans le cadre d'un suivi de rééducation. Et du coup, c'est une question qu'on peut leur poser. Est-ce que vous faites les suivis pré- et post-fréno? Et comme ça, si elles connaissent un peu les freins, elles connaissent la prise en charge pluridisciplinaire autour. Et c'est une question qu'elles peuvent comprendre. Voilà, donc même chez les IBCLC et chez les chiros et chez les ostéos, on peut poser les choses de cette manière-là pour avoir vraiment un aperçu de leur connaissance vis-à-vis des freins restrictifs buccaux avant qu'ils vous disent non, c'est pas un frein. Même chez la consultante en lactation, même non, c'est pas un frein. Voilà, l'anatomie du frein, le suivi pré-post-frénotomie et si elle va regarder la langue vraiment dans son anatomie et dans sa fonction. Tous ces éléments-là.
Ok, ouais, donc ça c'est valable peu importe le professionnel, pédiatre, médecin, ORL, ostéo, chiro, kiné, tout le monde. Vous pouvez, s'ils s'y connaissent un minimum, ils sont censés savoir répondre à ces questions et faire ce que Noëlla vient de vous expliquer.
Voilà, exactement, pour tous.
Ok. Bon, super. J'espère que ça vous aura apporté les tips pour savoir qui vous avez en face de vous et savoir s'il vous donne une information qui a l'air juste ou non. Ce qui marche aussi pas mal dans ces cas-là, c'est le bouche à oreille. Évidemment, en tant que professionnel, je pense qu'on voit beaucoup de monde aussi au bouche à oreille parce que un parent qui a eu cette problématique oriente sa copine, sa cousine, sa tante, son machin au professionnel parce qu'il sait qu'il a pris en charge ce truc-là de la bonne façon. Donc le bouche à oreille peut être un élément de plus qui vous oriente.
Oui, en fait, souvent, du moment qu'on tombe sur un professionnel qui est formé, comme c'est un travail pluridisciplinaire, il a un réseau. Donc, il sera réorienté vers une autre personne d'une autre profession la plupart du temps.
Oui, voilà. Si vous avez accroché une partie du réseau, après, normalement,
voilà.
Il saura vous réorienter vers les autres correctement.
C'est ça, tout à fait.
Ok, merci beaucoup Noëlla.
Merci
d'avoir participé à cet épisode de Milkshaker pour nous raconter la vue de l'intérieur des sections de freins de langue et d'avoir expliqué aux parents comment ça se passe, comment ça peut se passer. Je pense que ça va être très utile pour les parents de t'entendre parler aussi pour prendre une décision pour ceux qui hésitent.
Oui, j'espère que ça aura été clair pour tout le monde. Voilà.
Bien sûr, et puis s'il y a des questions, on les verra arriver en commentaire. Je te laisserai vérifier
très bien.
Les commentaires quand l'épisode sortira.
Super.
Ok, merci encore, et puis à tous et à toutes, à très bientôt dans Milkshaker. Merci mille fois d'avoir écouté cet épisode de Milkshaker. Vous pouvez suivre l'actualité du podcast sur le compte Instagram du même nom et sur mon site internet charlotte-bergerot.fr où vous retrouverez tous les épisodes mais aussi une rubrique Milk Letters constituée de témoignages écrits, un autre support pour vous transmettre toujours plus. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à m'aider en le soutenant. Pour cela, je vous invite à vous abonner, à laisser un commentaire, à lui attribuer 5 étoiles en fonction des plateformes ou encore en parlant beaucoup, beaucoup, beaucoup autour de vous. Je ne vous présente plus Emma et son titre I'll Be There qui continue de nous accompagner. Et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. D'ici là, n'oubliez pas, prenez soin de vous, milkshakez autant que vous le voudrez et bousculons ensemble les idées reçues sur l'allaitement maternel. I hate to see you down. Can't stand to know your hurt. When you say it's getting loud. Voices in your heart, and you know I get it, so let it all out. Keep your head up, your masterpiece, and I'll swear that I'll be there by your side. A text away, you know you can find me. It's just
you, I fight with you, 'cause I love you. I'll be there, I'll be there, oh, I'll be there, I'll be there. I know I'm not perfect. Sometimes I look myself, but I hope you know I care. You can meet me anywhere, and you know I get it, so let it all out. If anyone comes at you, then I'll swear that I'll be there by your side. A text away, you know you can find me. It just takes a whisper and I'll be there to listen. I guide you, I fight with you, 'cause I love you. I'll be there, I'll be there, oh, I'll be there, I'll be there. Trust me, every time I have your back, and I know that you do the exact same for me. Side by side, don't even need to talk. You know I get it, so let it all out. Keep your head up, your masterpiece, and I'll swear that I'll be there by your side. A text away, you know you can find me. It just takes a whisper and I'll be there to listen. I got you, I fight with you, 'cause I love you. I'll be there, so I'll be there, I'll be there.